en dire et des nouvelles,
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. La salle est baignée dans une sorte de clair-obscur et de fait, c'est bien d'une confrontation entre l'ombre et la lumière qu'il s'agit. Le combat entre l'obscurantisme et les lumières de la science. Celui d'un homme, un savant italien nommé Galilée, qui va tout simplement révolutionner notre perception du monde, faire vaciller les certitudes et menacer l'ordre établi. Oser dire que la Terre n'est pas le centre de l'univers et qu'elle tourne autour du Soleil et pas l'inverse. C'est Philippe Torreton qui incarne le Soleil Galilée sur la scène de la Scala de Paris. Autour de lui, comme autant d'étoiles ou de planètes, une pléiade de comédiens parmi lesquels sa fille Marie Torreton et Benjamin Jungers qui l'accompagnent aujourd'hui dans ce studio. La vie de Galilée de Bertolt Brecht, mise en scène par Claudia Stavisky dans la traduction d'Éloi Recoin, c'est à découvrir jusqu'au 9 octobre à la Scala de Paris et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et merci d'être là. Alors Philippe Torreton, cette pièce vous la connaissez depuis quelque temps déjà maintenant, puisque vous l'avez jouée sur la scène de la Comédie Française en 1990 dans une mise en scène d'Antoine Vitez. À l'époque, vous n'étiez pas le personnage de Galilée, vous jouiez le petit moine. Oui. Quel est le souvenir que vous gardez de ce premier contact avec cette pièce?
Un souvenir très ému pour plein de raisons. D'abord le choc de cette pièce que je ne connaissais pas à l'époque. Et je trouvais ça merveilleux d'allier la science et le théâtre et quel théâtre quoi, un personnage fabuleux, des personnages formidables, une thématique et moi qui avais un grand frère scientifique, pour moi c'était cette pièce le chaînon manquant entre mon grand frère et moi et puis il y avait la découverte d'Antoine Vitez, le fait qu'il me fasse confiance et puis c'était mes tout premiers pas à la Comédie Française, hein. Donc il y avait plein d'émotions liées à ça. Et puis pouvoir travailler, parce que la destinée a fait que Antoine Vitez est mort avant que je puisse moi répéter, parce que la pièce avait commencé. J'étais en deuxième distribution sur le rôle du petit moine, et donc je n'ai pas pu répéter avec lui. Je l'ai vu finir de sa mise en scène, mais en observateur. Et puis j'ai répété avec essentiellement avec Roland Bertin. Et ça, j'en garde un souvenir aussi ému parce que je trouve que beaucoup de choses de ce métier se passent d'acteur à acteur, quel que soit l'écart générationnel, mais c'est entre nous que ça se passe vraiment, au contact des planches, en se regardant, en se faisant confiance comme ça, en s'écoutant les uns les autres.
Alors le théâtre de Vitez, c'était le théâtre élitaire pour tous, on a tous retenu la formule. Et quand on va voir La vie de Galilée mise en scène cette fois par Claudia Stavisky, on se dit au fond que c'est un petit peu ce qu'elle propose au public, parce qu'avec sa mise en scène, on est vraiment dans une forme de théâtre populaire. Il y a une exigence, mais ça reste une pièce extrêmement accessible.
Mais de toute façon, Claudia Stavisky est un des enfants de Vitez.
Enfin, elle s'inscrit dans ce sillon-là.
Elle s'inscrit absolument. Il est revendiqué, il est absolument assumé. Et ce qui lui a occasionné aussi pas mal de crainte et de pudeur aussi, pour mettre en scène cette pièce après avoir vu celle d'Antoine, qui était quand même assez génialement réussie. Mais voilà, il se trouve que faut faire confiance aux œuvres, en fait. Les œuvres résonnent. Alors on peut les découvrir marqués par une mise en scène, mais finalement, quand on s'intéresse au sens, après on s'écarte d'une interprétation pour aller vers la nôtre.
Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, oh là là, Galilée, la science, l'astronomie, ça va être abominablement compliqué, ça peut sonner un peu rébarbatif. En fait, pas du tout. Est-ce que la pédagogie, c'était un élément, pas un mot qui plaît à tout le monde, le mot pédagogie dans le monde du spectacle, Philippe Torreton, mais est-ce que la pédagogie était un élément majeur dans la façon dont vous avez tous ensemble construit ce spectacle?
Alors, c'est un élément majeur, oui, qui a été un peu notre leitmotiv pendant les répétitions, de faire entendre, de comprendre. Et Claudia nous reprenait là-dessus, sur le fait de comprendre l'enjeu de la scène, de penser que le personnage est moins important que ce qu'il dit. Faisons entendre ce qu'il dit. Et le personnage se définira en fonction de ça. Et puis, je pense que, oui, c'est pédagogique, c'est assumé. Brecht, l'écriture de Brecht est comme ça. C'est pour ça que la pièce commence avec un enfant. Il explique à un enfant son intuition d'un système héliocentrique et non pas où la Terre serait au centre de l'univers. Là, non, nous tournons autour du Soleil. Et il explique ça à un enfant.
Pourquoi la nuit, je ne porte pas la tête en bas?
Donc, ceci est la Terre. Et là, c'est toi.
Debout. Maintenant, la terre tourne.
Et maintenant, je pends la tête en bas.
Bah pourquoi? Regarde bien. Où est la tête?
Mais là, en bas.
Quoi? Elle n'est peut-être pas au même endroit. Est-ce que tes pieds ne sont plus en bas? Quand je tourne, tu te tiens peut-être comme ça.
Non. Mais pourquoi je ne m'aperçois pas qu'elle tourne?
Mais parce que tu tournes avec elle, toi et l'air autour de toi, et tout ce qui est sur la boule.
Et pourquoi alors le soleil a l'air de bouger?
Oh! Donc, sous toi, tu vois la terre, qui reste la même. Hein, pour toi, elle est toujours sous tes pieds, elle ne bouge pas. Maintenant, regarde au-dessus de toi. Actuellement, la lampe est au-dessus de ta tête. Mais maintenant, ayant tourné, qu'est-ce qui maintenant est au-dessus de ta tête, donc en haut?
La table.
Et où est la lampe?
En bas.
Ah!
Ça, c'est beau! Ça, ça va l'étonner!
Voilà, on a presque l'impression d'un père hein, qui apprend quelque chose à son fils, qui lui transmet son savoir, mais aussi son enthousiasme. Alors, le jeune élève, c'est Andrea, hein, qui est joué dans cette partie de la pièce par Mathias Di Stefano. Andrea jeune, Andrea un petit peu plus âgé, c'est vous, Benjamin Jungers. Vous jouez donc Andrea dans la deuxième partie du spectacle. Vous jouez aussi d'autres personnages. On va en parler tout à l'heure, mais je voudrais que vous nous disiez un mot de la façon dont s'est instaurée la relation entre ce personnage d'Andrea, qui est le fils de la scène servante de Galilée et le savant lui-même. Est-ce qu'on peut parler d'un rapport filial entre Galilée et Andrea?
Oui, je pense en effet, on a évoqué ça assez vite, le fait qu'il y a un rapport très fort et qui pourrait être filial entre les deux, tout à fait, et filial avec ce que ça implique aussi, d'ailleurs, d'un rapport très intense, d'une grande admiration envers cette figure scientifique qui est comme un père pour lui. Et du coup, si on va plus loin dans ce que peuvent être des rapports filiaux aussi. Peut-être vers l'adolescence, par exemple, où il y a la rébellion de l'enfant par rapport au père. Si on reste là-dedans, ben en effet, il y a aussi ce moment-là, puisque il y a comme ce sentiment de trahison d'Andrea face à la rétractation de Galilée, et qui dans le parcours du personnage est un moment très 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 fort et intense, donc que je peux jouer vu que c'est vers la fin de la pièce. Et puis dans une dernière partie, voilà, des retrouvailles qui vont vers une réconciliation, même si ça ne va peut-être pas, ne peut pas complètement avoir lieu, mais en même temps des explications. Donc c'est vrai que dans ces différents rapports au fur et à mesure de la pièce, oui, on retrouve aussi des ingrédients d'un rapport filial et de la complexité que ça peut amener des rapports entre un fils et son père.
Oui, ouais. Avec notamment donc cette dimension de transmission qui est vraiment aussi l'une des dimensions qui se trouve au cœur du spectacle. Alors il y a donc le fils Andrea, hein, si j'ose dire, enfin le faux fils, si j'ose dire, mais avec ce rapport filial qui existe. Et puis il y a la fille, la vraie fille, hein, Marie Toretton, vous me voyez venir, puisque c'est la première fois là que vous jouez sur scène la fille de votre père, si j'ose dire.
Oui, et même la première fois que je joue avec mon père, tout court.
Tout court. Alors ça change tout de jouer avec son père. C'est un stress supplémentaire parce que c'est quand même pas un perdreau de l'année non plus. Le père, il a, voilà, j'imagine aussi, voilà, un poids, une présence
oui,
importante,
un grand acteur,
et non seulement sur scène, mais aussi dans votre esprit. Ça doit être hyper stressant.
Oui, c'est sûr que c'est stressant au début.
Au début, après ça va mieux.
Oui, parce que ça s'est très bien passé. Donc, au début, oui, j'avais le trac de. C'est pas forcément évident en répétition de se tromper devant son père. On n'est pas toujours bon tout de suite, donc être sous le regard du père, ça peut être intimidant. Mais en fait, on a eu une vraie complicité dans le travail, donc ça c'est. Mes peurs se sont très vite éloignées.
Mais dans la façon d'appréhender le lien qu'il y a, là pour le coup, qui est un lien filial réel, un lien vraiment familial entre non pas vous deux acteurs, mais entre vos deux personnages. Est-ce que ça modifie les choses, ou est-ce que vous faites clairement la différence entre la fille sur le plateau et la fille dans la vie?
Ah oui, oui, oui. Non, ça m'a pas perturbé d'être sa vraie fille pour jouer sa fille sur scène.
Ça ne modifie rien, quoi. Ça n'a pas participé à la façon dont vous avez composé votre personnage.
Non, après, parfois Claudia nous faisait un peu, nous demandait d'être un peu moins tendre, parce que le rapport entre Galilée et Virginia est un rapport assez distant finalement, puisqu'elle est écartée de toutes ses recherches. Le rapport qu'il a avec Andrea, il ne l'a pas du tout avec Virginia.
Voilà. Andrea est plus finalement son fils au sens lien voilà. de transmission, c'est au ça. Sens fierté, qu'avec sa fille, qui est effectivement plus éloignée. Mais il s'aime quand même beaucoup.
Il s'aime, quand même
il s'aime réellement. Il y a un lien d'amour très très fort, voilà. malgré les divergences.
Donc je pense que ce lien se ressent. Et parfois, on avait des... Voilà, des gestes qui peuvent venir de par notre proximité. Elle nous disait non, ça c'est pas forcément bienvenu. Je sais pas si tu te souviens, mais dans le, notamment surtout de la part de Galilée, qui lui est assez sec avec sa fille. Donc parfois, de temps en temps, il y avait peut-être lié à notre relation une petite sur la joue. Et elle disait non, gommez tout ça. Voilà.
Alors mais même à question ça, à Philippe Torreton, parce qu'il y a pas de raison que je lui pose pas la question non plus. Jouer avec sa fille, c'est j'imagine une grande fierté. Un grand bonheur, mais c'est peut-être aussi un stress.
Ouais, c'est un peu tout ça mêlé. C'est une grande joie. Quoi. Je trouve ça. Claudia nous a permis de vivre quelque chose qui est assez rare en fait. Et là, c'est je trouvais que c'était pour la, parce qu'il y a une autre première fois que Marie a tué. C'est le fait que c'est la première fois aussi qu'elle est dans un spectacle professionnel dans un grand théâtre avec une belle tournée, donc elle sort d'une école, ça faisait beaucoup de premières fois donc c'est émouvant, voilà. Moi j'ai vu en 8 semaines de répétition une comédienne se développer, c'est plus les moments de regard qui sont émouvants que les moments de travail où on travaille, voilà, on est.
Mais vous lui donnez des conseils, Philippe Torreton?
Ah ouais, mais oui. À tout le monde.
À tout le monde, pas seulement à elle.
Oui, non.
Alors quel conseil est-ce qu'il vous a donné, Philippe Torreton, Marie? C'est un conseil de père, c'est un conseil d'acteur, c'est un conseil de partenaire, un conseil de metteur en scène aussi un petit peu quand même.
Un peu de tout, mais surtout un conseil de d'acteur qui a plus d'expérience que moi.
Par exemple, concrètement, qu'est-ce qu'il vous a dit, quel genre de conseil?
Sur l'ouverture de jeu, gagner en ampleur, c'était la première fois, comme il dit, que je travaillais dans un théâtre aussi grand. Donc voilà, c'est pas la question de parler plus fort, c'est d'ouvrir son jeu. Et donc voilà, c'était essentiellement là-dessus, en fait.
Ouais, c'est ça, mais c'est le nerf de la guerre du théâtre. Hein. Il y a des acteurs qui passent une vie à ne pas le comprendre. Hein. Donc il y a que ça à comprendre en fait au théâtre. Le reste, on sait.
VMDN sur RFI avec Philippe Torreton, Benjamin Jungers et Marie Torreton, tous les trois sur la scène de la Scala de Paris, actuellement dans La Vie de Galilée de Bertolt Brecht, mise en scène de Claudia Stavisky. Et c'est à la table de travail de Galilée que le spectateur découvre le personnage. Alors j'avais prévu de demander à Philippe Torreton de se présenter physiquement, et je peux peut-être poser la question à Marie Torreton. À quoi est-ce qu'il ressemble physiquement, le Galilée composé par Philippe Torreton? Décrivez-le.
Oh là là. Il est barbu. Il a une présence très terre à terre, en fait.
Très tellurique.
Tellurique, voilà, c'est le mot. Et quelque chose de rassurant, je trouve, dans la, la corpulence, dans la présence.
Alors ça, c'est intéressant, la question de la présence, parce que c'est drôle qu'elle parle de présence. Une présence pour un acteur, Philippe Torreton, c'est inné ou ça se travaille?
Ah non, c'est pas inné. Moi, je crois beaucoup au travail, mais surtout à ne jamais avoir la réponse à ça, en fait. Ouais. Ne soyons pas, nous, acteurs, introspectifs. Soyons dans l'ignorance de ce qu'on dégage et de, moi, je...
Vous êtes là, point.
Oui, ma certitude, elle est pas en moi. Elle est dans ce que je dis. Voilà. Parce que c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est Brecht, et que j'adore, et donc je défends ça.
C'est-à-dire
donc
que là, c'est les mots qui donnent tout de suite la présence.
Le solide, c'est l'écriture. Tout le reste, c'est malléable. Tout le reste, ça peut s'évaporer. Ça veut pas dire que c'est pas du solide aussi, mais ça peut c'est fragile. Et moi, je me sens encore à 54 ans, encore fragile. On est tous débutants dans ce métier tout le temps. Parce que les projets sont pas les mêmes, les partenaires de jeu sont pas les mêmes. Ben là, j'ai rencontré ma fille sur scène, j'ai jamais fait ça avant. Donc il y a toujours des premières fois, de toute façon, dans ce métier.
Alors, le personnage explique, hein, on en parlait tout à l'heure, donc la dimension transmission et démonstration, il démontre aussi, puisque c'est un scientifique. Alors, il s'énerve, il rit, il boit, il mange, il y a un petit côté jouisseur aussi, hein, dans le personnage, il s'enthousiasme, il se révolte. Bon, c'est un passionné. C'est un passionné, quoi, Philippe Torreton. C'est pas quelqu'un qui est dans le milieu. C'est un homme d'extrême.
Oui, assez.
De radicalité.
Bien sûr. Mais intelligent. Donc il va comprendre un peu tardivement les choses, mais il va les comprendre quand même. Il va s'adapter. Mais il est sanguin, il est impulsif, il est passionné. Il y a cette scène magnifique avec Sagredo, où Sagredo met du temps à comprendre. Il lui dit, mais attends, calme-toi, tu penses trop vite. Mais comment vite? Réveille-toi, l'homme. Ce que tu vois, personne encore ne l'a vu. Il a des longueurs d'avance.
Il est du côté de la raison et en même temps de la passion, quoi. On peut pas opposer les deux à travers un tel personnage.
Oui, mais je crois que la raison est passionnante et la passion peut se raisonner aussi, mais il y a quelque chose de, c'est incroyable d'être le premier à voir quelque chose. Il a vu les satellites de Jupiter et c'est grâce au mouvement de ces satellites qu'il en vient à penser qu'il n'y a pas de voûte de cristal, il n'y a pas de sphère de cristal, les astres ne sont pas accrochés.
Et donc que Aristote et Ptolémée se sont trompés et qu'on vit dans l'erreur.
Et qu'on vit dans une fausse interprétation, oui, qu'on croit voir et ce qu'on voit n'est pas la réalité, en fait.
Et ça, Benjamin Jungers, c'est non seulement une révolution, mais c'est quelque chose d'inacceptable pour l'Église de son temps. Pour quelle raison est-ce que c'est si inacceptable que cela? Parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire, bon, bah voilà, quoi, c'est ainsi, et puis voilà, chacun devrait l'accepter. À l'époque, c'est une hérésie.
Oui, oui. Moi, ce qui nous a frappé dans toutes ces différentes figures qui se retrouvent opposées à Galilée et à ce qu'il propose, preuve à l'appui, et en s'imaginant que les preuves étant là, les gens ne pourront pas dire que c'est faux, ben c'est que, à l'image du philosophe, il ne regarde même pas, en fait. Il ne regarde même pas parce que ça voudrait dire admettre un autre ordre des choses, en fait, une autre manière de concevoir les choses. Et selon moi, du coup, ça induit d'autres rapports de pouvoir par rapport à cette époque-là, le pouvoir de l'Église sur les classes sociales. Et du coup, je pense que c'est pour ça.
C'est-à-dire que remettre en question le dogme, c'est remettre en question la doxa, donc le fait établi, et donc le pouvoir, en tout cas l'influence de l'Église et du clergé, d'une façon générale, sur le peuple.
Tout à fait, oui, sur le peuple. Et je pense que c'est pour ça, tout simplement, qu'ils ne veulent même pas regarder, pour ne même pas donner cette possibilité que ça puisse être autrement, pour des intentions bassement et complètement terre-à-terre, politiques, et de rapport de pouvoir. Oui.
Alors, ce philosophe que vous évoquez, c'est donc l'un des personnages que vous jouez dans la pièce, et il débarque effectivement un jour chez Galilée avec un mathématicien joué par Maxime Coggio, deux représentants donc de l'université qui viennent dénoncer, s'opposer au travail de Galilée, lorsqu'avec son ami Ferdinand, il reçoit chez lui le grand-duc de Toscane, et ils font preuve, vis-à-vis de Galilée, d'une vraie forme d'emphase par rapport à la science, mais aussi un petit peu de mépris.
Aristoteles dit...
Ne devrions-nous pas poursuivre dans la langue de tous les jours? Mon collègue, monsieur Federzoni, ne comprend pas le latin.
Y a-t-il quelque importance à ce qu'il nous comprenne?
Oui.
Ah, excusez-moi, je croyais qu'il était votre polisseur de lentilles.
Monsieur Federzoni est un polisseur de lentilles et un savant.
Merci, mon enfant. Si monsieur Federzoni y tient...
Non, moi, j'y tiens.
L'argument perdra de son éclat, mais nous sommes chez vous. Le monde tel que se le représente, le divin Aristote. Avec ses sphères et leur musique mystique, ses voûtes de cristal et les cycles de ses corps célestes, et l'inclinaison de l'orbe solaire, et les secrets des tables des satellites, et la profusion d'étoiles aux confins de l'hémisphère austral, et l'architecture illuminée du globe céleste, est une construction d'un tel homme et d'une telle beauté que nous devrions certainement hésiter à détruire cette harmonie.
Bien, et si maintenant Votre Altesse apercevait par la lunette ces étoiles impossibles, autant qu'inutiles?
Ah, on pourrait être tenté de répondre que votre lunette, faisant voir quelque chose qui ne peut pas être, doit être une lunette peu fiable, non?
Que voulez-vous dire par là?
Que si l'on était sûr de ne pas vous mettre davantage en colère, on pourrait dire ceci. Ce qui est dans votre lunette et ce qui est dans le ciel peuvent être de choses distinctes.
Il pense que nous peignons les étoiles médicéennes sur la lentille.
Vous m'accusez d'escroquerie?
Mais comment le pourrions-nous en présence de son Altesse?
Quelque chose ne va pas avec mes étoiles?
Tout va bien avec les étoiles de votre Altesse, ces messieurs, c'est le monde seulement, si elles existent vraiment, vraiment.
Bon, ces messieurs vont-ils, oui ou non, regarder?
Mais certainement, certainement.
Certainement.
Ils sont bêtes.
Ils sont bêtes, hein, effectivement. C'est ce que dit le jeune homme dans la pièce. Et ça corrobore ce que vous disiez à l'instant, évidemment, monsieur Jungers, Benjamin Jungers. Cet accent allemand qu'on a entendu, je pense qu'il faudrait qu'on en dise un petit mot quand même. C'est celui du maréchal de la cour, hein, qui est joué par Michel Hermon. Hein, il porte un habit de soldat allemand, de soldat nazi, c'est une apparition.
Ah non, c'est pas nazi. Non, c'est pas nazi.
Ah bah, c'est pas très loin. Hein. En tout cas, on pense tout de suite à ça. Hein.
De toute façon, un soldat en uniforme avec un accent allemand, ça fait tout de suite.
Ça fait tout de suite penser.
Voilà. Mais non, ça pourrait.
Parce que quand on connaît Brecht, on se dit.
Ça pourrait être un costume anglais de la Première Guerre mondiale. C'est tout ce vert là avec le marron du cuir, etc. Non, c'est pas.
Pourquoi ce choix-là? Pourquoi est-ce que Claudia Stavisky a fait ce choix de costume?
C'était parce que il interprète trois personnages. Michel Hermon, le curateur de l'université. Et ensuite le cardinal inquisiteur, et entre les deux il y avait ce petit personnage de et en le distinguant comme ça vocalement, ça permettait de faire un sas entre ces deux personnages importants. Et puis je crois qu'elle a été influencée par le côté maréchal. Il aurait pas dû être là normalement, cet homme-là. Il a le précepteur de l'enfant du prince Côme est malade. Donc on a demandé à une sorte de chambellan maréchal, un vieil homme multidécoré, d'accompagner, de remplacer le professeur de cet enfant. Donc il y va un peu entraînant la patte, et c'est le cas de le dire d'ailleurs, parce qu'il boite.
Oui.
Voilà, c'est pour montrer qu'il est pas, c'est pas du tout l'homme de la situation. Il y connaît rien. Il a qu'une mission, c'est protéger l'enfant et qu'il soit à l'heure au bal. Et
mais en même temps, il y a tout de suite une dimension politique qui arrive aussi dans la pièce à travers cet uniforme-là, parce que les autres costumes sont relativement neutres. Pourtant, à partir de ce moment-là, peut-être que c'est ma réaction à moi et que personne d'autre réagit comme ça dans la salle, mais moi, je me suis dit, mais tous les costumes. Il y a un petit côté années 30, quoi. Il y a un petit côté Gestapo, quoi. C'est à peine si on voit pas arriver la Citroën rue Lauriston, quoi.
Mais quand bien même on jouerait tous tout nus, on penserait aux années 30. Donc je crois que ça dépend pas du costume. C'est vraiment la pièce a été écrite en 37-38 en exil au Danemark par Brecht, remaniée ensuite dans les années 40, remanié à la fin de la guerre, quand il y a eu les deux bombes sur Hiroshima et Nagasaki, d'où le texte final de Galilée.
On y reviendra.
C'est prédictif. Et puis, et ensuite remanié au début des années 50, quand lui-même la mettait en scène. Donc, elle est empreinte de ça, de ce basculement du 20e siècle.
Donc, c'est pas une pièce exclusivement sur l'obscurantisme religieux, mais sur les obscurantismes en général.
Mais oui. Et actuellement, beaucoup, c'est marrant, alors qu'il n'y a rien qui fait écho dans l'écriture, j'entends, au changement climatique, mais le nombre de gens qui nous parlent qui font le lien et qui voient en Galilée un lanceur d'alerte, qui voient comme un climatologue, comme un, on lui met, c'est là, on est en train de se retourner vers la science avec un œil angoissé en se disant, est-ce qu'on n'aurait pas fait une grosse bêtise, messieurs les scientifiques? Et les scientifiques.
Donc les climato-sceptiques seraient les obscurantistes d'aujourd'hui.
C'est nous, malheureusement. Alors, il y a les imbéciles, comme, je sais pas, Pascal Praud et sa bande qui officient, et qui eux sont des gens absolument stupides. Mais, à part ces gens-là, il y a, nous aussi, nous sommes finalement dans notre mode de vie. On a conscience, donc de par la conscience, on serait plutôt comme Galilée, mais on continue de vivre comme on vit, voilà. Et on prend des voitures, et puis on a du chauffage dans nos maisons, on fait plein de trucs, et qui polluent, on mange de la viande, etc., etc. Donc on est en même temps la partie obscure, l'obscurantisme est en nous. Et on a les deux, on est dans une sorte de dichotomie comme ça, très très compliquée et très inconfortable.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Philippe Torreton, Marie Torreton et Benjamin Jungers qui jouent donc la vie de Galilée de Brecht, mise en scène par Claudia Stavisky à Scala de Paris. Alors dans la pièce, il y a pas moins d'une quarantaine de rôles. Hein, Benjamin Jungers, vous en jouez quatre. Donc Andrea adulte, hein, on en a dit quelques mots tout à l'heure. Andrea, donc c'est le disciple de Galilée, pour résumer. Le philosophe, on vous a entendu dans un instant. Le savant, le fonctionnaire, le cardinal Bellarmine. Et puis il y a même un cinquième, donc un membre du Conseil de la République de Venise. Hein, cinq rôles, ça fait quand même beaucoup, on s'ennuie pas. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai qu'on s'ennuie pas une seconde parce que les entrées, les sorties de scène, l'enchaînement des scènes sont extrêmement fluides, même si on change à la fois d'époque et de lieu. Hein, il suffit de bouger une table et puis de changer l'écran qui est au-dessus de la scène et qui indique au spectateur à la fois le moment où ça se passe, donc le temps qui passe, et le lieu précisément où les personnages se trouvent. On est à un rythme d'enfer là pour le coup.
Oui, oui, oui. Dans les premiers filages, c'était vraiment l'enfer, à proprement parler, quand on découvrait, parce que vous voyez évidemment ce qui se passe sur scène, quand on découvre derrière les changements de costumes, les mouvements qu'on doit faire quand on passe de cour à jardin ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'on apprivoise. Après, comme vous dites, on s'ennuie pas du tout, ni sur le plateau, parce que ce serait bien dommage.
Oui,
de s'ennuyer
quand même, ni dans la salle, oui.
Ni dehors, parce que ça n'arrête pas de bouger, de changer de costume.
Et on change de costume et on change de peau en même temps. Et parfois, les personnages peuvent passer d'un camp à l'autre. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois pro-Galilée, si j'ose dire, et dans le camp de l'Église.
Ouais, ça, c'est très amusant. C'est vrai que moi, dès le début, quand Claudia m'a proposé de participer à cette pièce, c'est une des choses qui m'enthousiasmait beaucoup. Quand j'ai pu lire les différentes petites partitions, parce que parfois c'est des figures, hein, plusieurs d'entre elles, c'est des figures, l'espace d'une scène, et qui en effet sont tantôt dans un camp, tantôt dans l'autre, moi je me résume, des gentils ou des méchants, c'est bête à dire, mais je veux dire, pour en avoir pratiqué pas mal, des gentils, naïfs, jeunes, ça fait plaisir aussi un petit peu de pratiquer des figures un petit peu plus sombres, manipulatrices, telles le cardinal, ou carrément butées et opposées à Galilée comme le philosophe.
Mais donc, du coup, ils sont extrêmement typés, quoi, les personnages que vous interprétez et même les autres, c'est-à-dire que chacun présente une caractéristique physique ou même une façon dans la voix aussi de parler. Il y a vraiment un jeu à l'intérieur du jeu, si j'ose dire.
On s'est pas mal penché dessus au fur et à mesure des répètes. Je pense que on est arrivé à ébaucher ce que j'appellerais plutôt des figures aidées par un costume, aidées évidemment par des situations, sans aller trop dans une composition de personnages qui, c'est ce qu'on s'est dit vers la dernière répète, nuirait peut-être un petit peu à la fable et ce que raconte le texte justement. Donc une sorte d'équilibre à trouver qu'on a dû tous un petit peu ajuster selon là où on en était et ce qu'on imaginait de nos rôles et ce qu'on voulait en donner pour donner quand même à la fois un récit global et en même temps quand même des personnages qui apparaissent et qui peuvent par des petites choses, parfois une posture, parfois une manière de dire sans que ça soit une voix complètement altérée, mais qui peuvent quand même laisser une trace dans l'imaginaire du spectateur.
Mais c'est vrai qu'on est en permanence sur la corde parce qu'il y a cette volonté pédagogique qu'on évoquait au début de l'émission, et c'est vrai qu'on met en scène en permanence un débat d'idées, donc quelque chose qui est assez abstrait, et en même temps il y a aussi une place pour le rire, pour le comique, pour le ridicule en particulier à travers les personnages secondaires que vous et d'autres comédiens interprètent, quoi. Donc non mais c'est très important parce que ça permet effectivement de pas rendre indigène
geste. Ouais, le reste sûr. Est d'humaniser ouais, aussi un petit peu tout ça. Et dans la rythmique du spectacle, c'est fondamental.
Ah bah évidemment, oui. Je pense pour nous, c'est bah de toute façon, nous on est acteurs, on a quand même envie de jouer. On est ravis, je pense, pour jouer. On joue une pièce pareille qui est éminemment politique et qui est, enfin voilà, écrite comme elle est écrite. Enfin voilà, avec énormément de brio et d'intelligence par brèche. Donc forcément, on veut véhiculer ça, mais on a aussi envie évidemment de jouer, de s'amuser, de raconter une histoire ensemble, tout simplement. Donc tout ça s'équilibre au fur et à mesure du travail, comme j'ai l'impression que ça s'est fait, dans les filages aussi, au fur et à mesure.
Une quarantaine de personnages, on le disait, Marie Toretton, deux femmes seulement, c'est pas beaucoup quand même. Mais il y a un petit côté, il y a que deux femmes. Hein. Donc il y a Nanou Garcia qui joue Madame Sarti, qui est la mère d'Andrea et la servante de Galilée. Et puis il y a donc vous, Marie Toretton, qui jouez la fille de Galilée. Elle aime son père, oui. Mais elle aime Dieu aussi.
Oui.
Voilà. Lequel des deux aime-t-elle le plus?
Je pense son père. C'est grâce aussi à la foi et à l'amour qu'elle a pour Dieu qu'elle reste auprès de son père et qu'elle lui pardonne le fait qu'il ait bousillé son mariage quand même.
Oui, parce que quand même il y est fort quand même. Hein,
c'est
le père. C'est-à-dire que pour lui, même si encore une fois il aime sa fille, la science.
Prime.
La science prime, ouais. Mais en même temps, alors c'est sûr qu'il aurait dû respecter l'amour de sa fille pour ce jeune garçon issu des hautes familles italiennes richissimes. Mais il prouve aussi à la face du monde que cet homme est finalement était, comment dire, lui aussi met sa famille avant l'amour qu'il a pour sa fiancée Virginia, d'une certaine façon, parce que pendant...
Donc vous renvoyez les deux personnages dos à dos, alors?
Oui, enfin, en tout cas, il lui dit ses quatre vérités. Et alors, il le fait avec ses gros sabots de Galilée, sa vulgarité et son emportement. Mais ce qu'il lui dit est vrai, aussi. C'est-à-dire que pendant 8 ans... cet homme a laissé tomber sa fille parce que j'étais pas en odeur de sainteté, c'est le cas de le dire, vis-à-vis de mes recherches. Donc il a fallu que je passe une épreuve probatoire et quand enfin, à l'aune d'un nouveau pape qui semble être plus conciliant avec les scientifiques, plus éclairé, et là, comme par hasard, sa famille reprend contact
Après,
avec
c'est
nous.
C'est aussi sous la pression familiale,
bien sûr.
Parce qu'il est jeune.
Ouais.
Et la pression que Virginia vit avec l'inquisiteur à un moment dans cette scène où l'inquisiteur lui dit de rester auprès de son père et que et c'est un peu la même chose que doit vivre Ludovico avec le poids familial.
Voilà, exactement. Ouais.
Donc, d'une certaine façon, on peut le comprendre aussi qu'il ait du mal à s'affranchir de ça.
Enfin, est-ce que Virginia...
On va pas y revenir, c'est comme
non,
ça.
Non, voilà.
Ce mariage,
de toute façon, c'est foutu,
voilà.
C'est foutu.
Est-ce que Virginia veut protéger son père? Est-ce qu'elle veut le protéger de qui? De lui-même? Des flammes de l'enfer, peut-être aussi?
De lui-même, avant tout. Et puis de la mort, de l'Église, de ce qu'il risque s'il est hérétique et s'il continue avec... dans ses recherches et en affirmant des choses qui sont en opposition avec la théologie. Donc oui, elle cherche à le protéger, elle est très... C'est ce qui est émouvant dans le rôle de Virginia, c'est qu'elle comprend pas parce qu'elle est bête, mais parce qu'on lui laisse pas la possibilité de s'intéresser à tout ça. Donc elle, ça lui paraît... elle ne perçoit pas l'importance de ça. Donc pour elle, c'est juste, il se met en danger, donc tout le long de la pièce, elle est inquiète pour lui, elle est rassurée parfois, parce qu'elle se dit non, mais je pense qu'il a compris qu'il se trompait, il a arrêté d'écrire des livres, tout ça. Et puis c'est seulement à la fin, quand il est arrêté par l'Inquisition, que là, elle va prier pour son salut et qu'elle va rester auprès de lui une fois qu'il est emprisonné, en fait.
Alors c'est un rôle qui n'est pas, on peut pas dire que ce soit un rôle taiseux, mais vous faites passer beaucoup plus de choses finalement avec votre regard, avec votre corps, avec votre déplacement, avec vos gestes, qu'avec les mots, qu'avec la parole.
Mais Virginia, c'est pas un rôle bavard, effectivement. Elle a, contrairement à tous les autres rôles de la pièce qui ont quelque chose à défendre, qui se définissent, comme disait papa, par leurs propos, elle, non. C'est sûr que ses propos, c'est bonjour, je vais à Matine, voilà.
Donc, mais qu'est-ce que ça dit, ça, de
moi? Ça dit énormément de choses.
Alors voilà, on a un peu l'impression, quand même, encore une fois, les deux personnages féminins sont pas forcément les personnages les plus intelligents de la pièce, quoi, pour faire simple, en tout cas, ceux qui irradient, etc. Est-ce qu'il y a pas un petit côté macho, quand même, chez Brecht?
Je pense que Brecht était pas le dernier des machos.
Qu'est-ce que vous répondez à la critique de Brecht, la fille, Philippe Torreton?
Il a écrit des rôles magnifiques de femmes et de tout âge. Entre Mère Courage, La Bonne Âme de Sechuan, et puis enfin plein, il y a, et j'en oublie, mais
dans cette pièce, c'est vrai que
c'est pas sa priorité. On peut se poser la question,
mais le théâtre, ça a été tout le temps ça, et c'est même encore ça dans l'écriture moderne, c'est-à-dire que dans le théâtre classique, dit classique, il y a un rôle de femme pour 7 rôles d'homme. Donc la disparité est hallucinante, et l'écriture moderne contemporaine, donc avec tous les soucis la conscience plutôt qu'on a de ça, c'est la statistique tombe de 1 à 4 ou 5. C'est que on a progressé, mais pas tellement. On écrit encore majoritairement pour les hommes. C'est dément.
Un homme qui fait ce que j'ai fait ne peut pas être toléré dans les rangs de la science. Qui ne connaît la vérité n'est qu'un imbécile, mais qui la connaissant la nomme mensonge. Celui-là, c'est un criminel.
Bon, elle est très forte, hein. C'est très très forte cette phrase que je répète. Celui qui ne connaît pas la vérité, celui-là n'est qu'un imbécile. Mais celui qui la connaît et la qualifie de mensonge, celui-là est un criminel. C'est effectivement extrêmement fort. La vie de Galilée, c'est un combat contre le mensonge, un combat pour la vérité, un combat pour la vérité scientifique.
Oui.
La foi contre l'omniscience de la foi. La science, la foi en la science contre l'omniscience de la foi.
Ouais, c'est ça. Ouais, parce que Galilée se définit comme chrétien et croyant. Il dit « Je suis un fils fidèle de l'Église ». Et c'est pas une boutade quand il le dit. C'est vrai. Et quand il dit plus tard, on l'accuse d'avoir écrit des pamphlets contre l'Église, il dit « J'ignore ces pamphlets. La Bible et Homère sont mes lectures préférées ». Et c'est vrai. Ça n'empêche pas. Simplement, il met pas Dieu là où on aimerait qu'il soit. Il le met ailleurs, ou il sait pas où le mettre d'ailleurs. Mais comme dit, il reprend la formule de ce supplicier Giordano Bruno, Dieu est en nous ou nulle part. Mais à défaut d'y avoir pensé plus que ça. Mais est-ce que Dieu est une pensée? Est-ce que c'est pas au contraire une sensation?
Est-ce que vous diriez qu'il est un moine soldat de la science?
Non, je pense pas. Non, non.
Il n'est pas en guerre pour la vérité scientifique.
Mais en tout cas, il reste humain et donc fragile. Il a peur, comme il le dira, il l'avouera à Andrea à la fin. On m'a montré les instruments. Les instruments, c'était les instruments de torture. Donc c'était l'étape avant de vous faire mal. On vous dépliait la trousse à outils. On dit, c'est avec ça qu'on va vous trifouiller le ventre. Si vous n'abjurez pas, qui peut dire qu'il tiendrait le coup?
Donc face plus à ça. Plus humain ouais, que héros.
Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il dit, il reprend Andrea et dit non, malheureux le pays qui a besoin de héros. Andrea se disait le contraire, il dit malheureux le pays qui n'a pas de héros. Et lui reprend ça à l'inverse. Il dit non, on n'a pas besoin de héros. Malheureux le pays qui a besoin de héros.
Moi, je soutiens. Et le seul but de la science consiste à soulager les peines de l'existence humaine. Quand des hommes de science, intimidés par des hommes de pouvoir égoïstes, se contentent d'amasser le savoir pour le savoir, la science peut s'en trouver mutilée. Et vos nouvelles machines pourraient ne signifier que des tourments nouveaux. Vous découvrirez peut-être avec le temps tout ce qu'on peut découvrir. Et votre progrès, cependant, ne sera qu'une progression qui vous éloignera de l'humanité. L'abîme entre elle et vous pourrait un jour devenir si grand qu'à votre cri de joie devant quelque nouvelle conquête pourrait répondre un cri d'horreur universel.
Pas la science à tout prix, donc Philippe Torreton, n'oublions pas l'humain.
Absolument.
Combattons pour la science, mais n'oublions pas l'humain. C'est ce texte-là qui a été modifié par Brecht après Hiroshima, comme vous le disiez.
Oui, tout à l'heure. Ça a été un choc inouï. Et pour beaucoup de, y compris même pour les scientifiques, il faut se souvenir que les principaux scientifiques avaient travaillé sur la bombe, donc sachant que c'était une, voilà, ils travaillaient sur un truc qui allait être violent, mais vu le premier essai réussi, devant la force dévastatrice, ils ont écrit une lettre, dont Einstein a co-signé pour, je crois que c'était à l'époque c'était Truman, hein, c'est ça?
Oui, absolument. Harry pour Truman, lui, président
pour lui,
américain.
Voilà, pour lui dire. Pour lui dire qu'il faut absolument informer les autres pays de la façon dont on a réussi à fabriquer cette bombe. On ne peut pas être les seuls à l'avoir. C'est trop déséquilibrant. C'est trop de puissance pour un seul pays. Ils ont été effarés. Et Brecht l'était aussi. Et donc, il a décidé de donner comme ça un côté presque prédicateur à Galilée, à son Galilée, en disant que effectivement, une science asservie au pouvoir peut entraîner ce genre de choses, et on est prêt à accepter. Regardez tous ces ingénieurs, ces scientifiques du régime nazi que nous avons exfiltrés. Il y en a eu en France, il y en a eu en URSS, et il y en a eu un beau paquet qui ont formé la NASA, etc. Enfin, on est prêt à tout. Et donc une science inféodée au pouvoir est très très dangereuse. Il doit y avoir une indépendance de la science, comme il y a une indépendance de la justice. Il y a une science libre de toute pression de l'État. Or, c'est
et
pas
aujourd'hui
le cas. Mais non, on privilégie, on aura toujours tendance à privilégier la recherche appliquée que la recherche fondamentale. Et aujourd'hui, l'ANR, par exemple, qui subventionne la recherche, est une énorme machine.
L'Agence nationale de la recherche.
Voilà, est une énorme machine à dire non. Le oui est devenu un accident. Quand tout d'un coup, c'est pour ça que les scientifiques ont toujours 3-4 projets. Parfois même, ils font des projets un peu alibi où on sait qu'on va dire oui et ils vont prendre l'argent de ce projet-là pour le faire à un projet qui aurait été refusé. Ça entraîne des combines incroyables.
Philippe Torreton, vous êtes aussi à l'affiche d'un film qui sort aujourd'hui même, hein, qui est sorti ce matin, 3 jours et une vie de Nicolas Boukrieff, adapté d'un livre de Pierre Lemaitre. Vous pouvez en dire un tout petit mot?
Ah bah, c'est une histoire formidable, inventée par Pierre Lemaitre, ce maître du polar. Et là, il a réussi un livre formidable. Et c'est une... je crois que tout est dans le titre, hein, 3 jours. 3 jours d'un petit village comme ça, et toute une vie après...
voilà, un petit garçon qui disparaît.
De culpabilité et de
soupçons. C'est un film très noir. Hein.
C'est un film noir, ouais. Très élégant, vachement bien mis en scène par Nicolas Boukrieff, avec plein d'acteurs formidables. Dont Sandrine Bonner,
Charles Berling, Margot Bansillon, Pablo Poli.
Poli, qui est formidable. Et puis, il y a toute une pléiade d'acteurs vachement bien. Dimitri Storoge aussi. C'est un film comme on les aime, quoi, avec un arrière-plan, des seconds rôles, bien tenus, une mise en scène. C'est pas pour rien qu'il y a certains critiques qui parlent de Simenon, mais il y a de ça, ça évoque ça aussi.
Merci beaucoup, Philippe Torreton. Merci également à vous, Marie Torreton et Benjamin Junger. C'est la vie de Galilée de Bertolt Brecht jusqu'au 9 octobre à la Scala de Paris.
Merci.
Regarde, c'est le titre et l'artiste s'appelle Manu. Bonjour Alain Pilot.
Bonjour Jean-François, bonjour Marie et Philippe Torreton et bonjour Benjamin Youngers.
Et si la chanteuse Manu ne parle pas forcément à tout le monde, eh bien le groupe dans lequel elle officie, elle vous dit sans doute un petit peu plus.
Il s'agissait de Dolly. En 1997, Je ne veux pas rester sage, l'histoire de cette formation qui s'appellera aussi Dolly & Co. s'achèvera en 2005.
2019, Manu, interprète, guitariste, bassiste, réalisatrice, productrice, est en solo et elle publie son 4e album, L'Horizon.
Disque onirique, Manu ?
Je fais partie des gens qui notent leurs rêves. J'ai souvent un papier, un crayon à côté du lit. Et du coup, j'avais noté, j'ai rêvé de 4 phrases, mais vraiment bien, très, très lisibles pour moi au réveil. J'ai rêvé de 4 phrases, mais je n'ai pu en écrire que 2. Après, la mémoire s'est évaporée. Et là, je dirais que l'album, c'est un peu comme si j'avais cherché à retrouver ces deux phrases.
Quelles étaient ces phrases ?
C'est l'intro qu'on retrouve sur l'album. C'est « Son avancée est un passage ».
Son avancée est un passage.
Seul mouvement autour de rien.
Seul mouvement autour de rien.
Ce serait la sonate des sentiments. On n'écoute pas trop nos cœurs au rythme.
Manu, la sonate, un album onirique, Alain, mais conceptuel aussi.
Indéniablement, puisque dans le livret, Manu, qui a réalisé cet opus, non pas avec sa fille, mais avec son compagnon Patrick Giordano, invite l'auditeur à l'écouter dans l'ordre et en entier.
Pour moi, ça a un sens. C'est-à-dire qu'un morceau comme Tout est parfait, par exemple, si on l'écoute isolément du reste, pour moi, ça marche pas. C'est aussi bête que ça. Alors, c'est très, très difficile de demander ça à l'heure actuelle, vu que maintenant, même quand on télécharge un album, il apparaît dans le désordre, et puis que la plupart, même moi, hein, des fois, j'écoute un titre sans savoir de quel album il est issu d'un autre artiste, mais je tiens encore, c'est peut-être le dernier que je ferai comme, avec ce concept-là, mais. Et puis aussi parce que les vieux titres, les vieux albums que j'aime écouter, pour moi, ça racontait une histoire. Souvent, l'ordre n'était pas là par hasard. C'était très étudié. Alors. Moi, j'ai toujours étudié l'ordre de mes albums, mais parfois c'était plus dans une idée d'enchaînement, de tempo. Voilà. Là, c'est vraiment. Il y a des rappels de textes qui interviennent presque morceau après morceau, des rappels de sons. Tout est lié, tout est pensé pour être écouté dans l'ordre.
Tout est parfait, Manu, qui n'a pas hésité ici à employer plusieurs langues.
Kid, c'est de l'espéranto. En fait, quand je disais qu'il y avait des liens dans pas mal de chansons, c'est que les deux phrases de l'intro, je les ai fait traduire en espéranto. Donc, Kid, c'est un monsieur, c'est Monsieur Google, je crois, qui parle. Monsieur Google Trad. Et puis ensuite, en play, il y a de l'anglais et du japonais et du français, évidemment. Et c'est Gaming is not a crime, décliné en japonais et en français. Et c'est une chanson sur les jeux vidéo, écrite par Patrick. Play your way, c'est joue à ta manière, joue de toute façon.
Dernière question, Manu, mais qu'est-ce qu'on peut dire dans une chanson ?
J'adore cette phrase. Il y a celle-là et mais de quoi tu parles ? Je t'ai répondu là.
Merci infiniment.
Merci à toi.
Un nouveau cap et l'aventure. Mais qu'est-ce qu'on peut dire dans une chanson ?
Voilà, c'est le titre qui donne son nom au nouvel album de Manu, L'Horizon. Merci Alain. Dans un instant, l'info, on se retrouve demain avec la romancière belge Myriam Leroy pour son livre Les Yeux Rouges, qui évoque un sujet qui peut vite devenir très lourd, le cyberharcèlement. Un livre publié aux éditions du Seuil, et vous m'en direz des nouvelles.